La trêve, c'est un appel qui a été lancé à plusieurs reprises par une des personnes qui fait partie de la coalition Justice pour les victimes de bavures policières, Julie Mathin, dont le père a été tué par la police de Vancouver en 2002. Elle appelle à une trêve dans les rues de Montréal, dans les rues partout, au désarmement de la police. On poursuit donc sur cette question-là, la violence policière, avec l'abécédaire de la claque. Si vous vous souvenez, le 11 septembre, on parlait de terrorisme et à l'abécédaire de la claque, on avait l'entrée I pour insécurité. Maintenant, on s'en va à l'entrée V pour violence. Pour en parler, je suis en compagnie de Paul et de Pierre-Paul Laclaque. Bonjour.
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 Alors, la violence en question, de quoi on parle exactement dans l'abécédaire anticapitaliste?
Ben, premièrement, la violence dans notre société, on considère que c'est quelque chose qui est comme passé. T'sais, on considère qu'on n'est plus dans les sociétés violentes, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus en train de torturer les gens pour qu'ils obéissent à leur patron. T'sais, je veux dire, on est dans une société pacifiée. Mais ce qu'on oublie souvent par rapport à ça, on pense que c'est une société qui marche au désir. T'sais, les gens veulent avoir une plus belle maison, ils veulent avoir une plus belle auto, ils veulent avoir des choses. Et puis c'est comme ça que le capitalisme se reproduit. Les gens veulent avoir de plus en plus de choses. Et puis c'est comme ça que il se crée une société qui devient qu'à consommer de plus en plus, qui crée le développement, qui crée tous les problèmes économiques et sociaux et environnementaux qui viennent avec le capitalisme. Toutefois, ce qu'on oublie, c'est que pour une forte proportion de la population, environ, tu sais, je veux dire, il y a 15% de la population au Québec qui vit en dessous du seuil de faible revenu. Fait que, tu sais, c'est quand même énormément de la population. Pour ces gens-là, c'est une réalité qui est complètement différente. Par exemple, si, je sais pas si vous vous rappelez vos emplois étudiants. Moi, j'ai travaillé comme déménageur un peu. J'ai travaillé comme dans des cuisines. Souvent, la plupart des gens qui étaient dans ces emplois-là, ben, étaient des gens qui avaient été criminalisés par le passé. Parce qu'on s'entend que si jamais tu fais un job à 10$ de l'heure, ou ben donc, tu es obligé de travailler tous les samedis soirs puis tous les vendredis soirs à 10$ de l'heure dans une cuisine, c'est des emplois qui sont plutôt merdiques. Fait que les gens, comme c'est impossible pour les riches puis les pauvres, c'est interdit pour les deux de coucher en dessous des ponts, de vendre de la drogue ou de faire des choses. Sauf que pour quelqu'un qui gagne 20-30 $ de l'heure, ben, tu vas pas commencer à vendre de la drogue, genre pour faire un 100$ de plus à la fin du mois. Sauf que si jamais tu es une mère monoparentale, ben, tu as plus de chances d'essayer de trouver des manières de subvenir à tes besoins puis aux besoins des personnes proches de toi. Fait que concrètement, pour les gens à faible revenu, qui sont la population qui sont les plus à risque de commettre des actes illégaux, parce que la majorité des actes illégaux sont des actes qui visent la propriété, il y a une violence qui est exercée au quotidien envers ces personnes-là, parce que dans le fond, ils savent que si jamais ils essayent d'avoir ce qu'ils ont de besoin, ben, ils vont se le faire enlever ou ben, donc, ils vont se faire punir pour avoir utilisé des manières qui sont illégales. Ça fait que c'est quand même une énorme quantité de la population. Puis c'est dans le fond, cette forme de violence là, c'est juste une restriction des besoins nécessaires. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on leur enlève ce qu'ils ont de besoin pour vivre. Puis on leur dit ben arrange-toi avec ça. Puis c'est la même forme de privation. Par exemple, tu sais, on le sait dans les manifestations, quand on y va, dans le temps, on se faisait manger des possèques criminels au début des années 2000. À cette heure, tu sais, on leur reçoit juste des tickets. Mais pourtant, le stress puis l'angoisse qui est causée par une arrestation est aussi grande. C'est la privation de la nécessité, c'est la privation des besoins nécessaires, c'est qu'on nous enferme, on nous empêche d'aller aux toilettes, on nous empêche de, tu sais, je veux dire, on nous force à nous humilier en urinant devant nos camarades. C'est vraiment des situations difficiles. Alors, c'est ça, c'est cette privation du nécessaire qu'on considère comme une forme de violence. Et puis, ce qui se produit, en effet, quand il y a une criminalisation, je veux dire, des différentes formes de comportements illégaux, c'est qu'il y a une des formes de violence qui est considérée comme légitime, c'est-à-dire la violence que l'État fait, que la police fait, la violence qui est faite envers les personnes, et puis qui est légitime, qui est correcte, qui est acceptée par les médias. Et puis, de l'autre côté, on a une violence qui est illégale, une violence qui est réprimée, une violence qui est comme non nécessaire, qui t'envoie faire un suivi psychologique, qui t'envoie en traitement psychologique à long terme. Fait que cette hiérarchie de violence-là, on la retrouve, et puis si jamais on essaie d'observer la société en général, ben t'sais, on va regarder un peu plus comment que les médias la traitent, la violence, de cette façon-là. Puis c'est pour ça que je vais laisser ça à Paul, qui va nous expliquer, dans le fond, un peu comment ça se déroule dans les médias, cette violence-là.
Donc, une mise en scène de la violence, si on veut.
Ouais, mais c'est ça. Donc, là, je vais prendre un article qui a paru sur Radio-Canada, sur leur site web. Ça va faire bientôt un an. C'est Daniel Ménard, qui est, euh, qui est mort après une utilisation du taser par la police. Donc, c'est pas là hyper scientifique, là, c'est juste comme une petite analyse que je fais là,
du discours
qui est produit par nul autre que le porte-parole du SPVM, Simon Delorme. Donc, on s'entend que c'est un exercice de relations publiques. Puis, le problème avec ça, c'est que c'est repris, puis c'est diffusé par les médias sans vraiment de recherche, sans vraiment se poser de questions, sans fouiller davantage. C'est bêtement, je veux dire, glissé comme ça, puis c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que ça donne des résultats que je considère douteux. Donc, je vais vous lire des parties de l'article, puis je vais commenter. Donc, ça commence comme ça. Un homme de 41 ans est mort après une intervention du service de la police de la ville de Montréal dans un logement de la rue Saint-André, décrit comme criminogène.
Déjà là,
criminogène, ben je veux dire, ça fait peur. T'sais, c'est pas un mot qui est utilisé souvent, puis... Antidote le définit comme qui favorise le développement de la criminalité. Fait. Donc, déjà là, ça l'induit que, en fait, que c'est un secteur dangereux puis que ça cautionne des moyens utilisés par une éventuelle intervention de la police. Donc, ça va un peu les blanchir parce que c'est dangereux. T'sais. Donc, TVA, il parle d'établissements connus des policiers, mais c'est la même chose, c'est que criminogène. Donc, l'article continue, on parle de la victime, en fait, qui s'appelle Daniel Ménard, était porté disparu de l'Institut Pinel depuis le 10 novembre. Il était activement recherché par la Sûreté du Québec. Fait que déjà là, je veux dire, on discrédite la victime, puis on le rend quasiment coupable d'être mort par le taser, là, finalement, là. Donc, c'est ça, c'est des techniques qui sont souvent utilisées, là, tu sais, qu'on peut appliquer
à plein de cas, notamment celui de Jean-François Nadreau, dont on va parler tout à l'heure avec Josiane Miette. C'était un peu ça qui s'est passé.
C'est ça, je vais poursuivre. Là, après, c'est ça, on dit que l'affaire est entre les mains de la SQ, qui sera chargée de l'enquête. Bien, ça réconforte ceux qui lisent l'article puis qui réfléchissent pas. Et surtout les policiers qui, on sait bien, vont être blanchis de toutes les enquêtes là, de la police par la police. Donc, encore une fois, je continue. Là, on nous explique un peu plus là, ce qui s'est passé. Donc, répondant à un appel d'urgence après qu'une femme eut fait une surdose de drogue, les policiers ont été accueillis par un homme agressif et fortement intoxiqué qui a frappé un agent au visage, lui causant des blessures à la tête. Là, évidemment, on met en place tous les éléments qui rouvrent la porte aux techniques, brutales de nos jambons, là, militarisés, qui vont... C'est ça, qui, théoriquement, pour poser une action, il faut qu'il y ait certaines choses qui soient établies. Fait que là, ils les établissent comme ça, puis ils relatent. Donc, c'est entrave, voie de fait et blessure sur un policier. Donc, là, c'est sûr que là, les procédures commencent. Donc, d'intervention là, de la police, comme si, c'est ça, là, c'est un scénario parfait. Là, il y a eu une intervention pour maîtriser l'homme, donc une intervention physique qui a pas fonctionné. Après, on utilise la matraque, qui fonctionne pas parce qu'on utilise le poivre de Cayenne. Puis, donc, tout ça pour fonctionner. Et après, là, tu sais, on voit que là, il y a un entonnoir qui se crée sur l'utilisation de d'autres armes. Puis là, dans l'article, ça, c'est vraiment drôle. Là, je vous lis ça immédiatement. Après avoir tout utilisé ça, on dit « Les policiers auraient ensuite montré un pistolet taiseux à l'homme pour le décourager de poursuivre l'affrontement. Mais celui-ci aurait refusé d'obtempérer. » Je veux dire, c'est vraiment ridicule. Là, je répète, c'est un article de Radio-Canada. Donc... c'est ridicule. Puis l'homme, c'est ça, a dit non, donc ils ont utilisé le taser. Puis à TVA, eux autres parlent que le gars arrachait carrément ses fléchettes. Suite à l'utilisation du taser, plusieurs agents ont tenté de le maîtriser. Puis, puis c'est ça finalement, c'est ça. TVA, ils disent que on l'a menotté, il a cessé de respirer. La presse aussi. Radio-Canada, eux, dit qu'après là, toutes ces interventions-là, qu'il aurait refusé d'aller à l'hôpital, mais finalement, il a perdu connaissance et il est mort d'un arrêt cardio-respiratoire. Donc, au moment d'aller à l'hôpital. Donc, fait que, tu sais, il faut faire attention, tu sais, quand on lit un article, puis voir que, je veux dire, c'est comme, c'est vraiment un scénario parfait qui blanchit le policier, puis qui culpabilise la victime. Dans, puis c'est un scénario qui se répète là, dans, à plusieurs événements.
Donc la violence policière telle que traitée dans les médias, la violence policière telle que produite par les conditions objectives de vie des gens dans la pauvreté, à l'entrée de l'abécédaire de la claque, donc ce mois-ci. La violence, un dernier mot sur cette question-là en lien avec les événements violents qu'il y a eu hier à Ottawa ou ceux qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont donné lieu à la mort de Guy Blouin, par exemple, ou de Michael Brown aux États-Unis. Des échelles de violence peut-être disproportionnées selon les victimes de la violence?
Ben, en effet, ben, c'est que la violence est toujours disproportionnée. C'est qu'il y a des gens qui sont entraînés, qui sont c'est des gens qui sont mis en forme pour être capables de s'attaquer à d'autres individus contre des gens qui essayent juste simplement de survivre ou ben donc c'est ça, tu sais, je veux dire c'est il y a pas de proportion entre les niveaux de violence qui sont utilisés. Tu sais, je veux dire, les populations pauvres sont simplement considérées comme des problèmes dans les sociétés de nos jours. C'est normal que la violence soit complètement disproportionnée et puis elle est vraiment pas d'allure. Sur ce qui s'est passé à Ottawa, je veux dire, ce qui est vraiment décourageant, c'est vraiment de voir l'analyse médiatique partout là, encore une fois, c'est que c'est, t'sais, on se demande comment ça se fait que cette personne-là s'est pas faite tuer ou arrêter avant. Je veux dire, alors qu'on n'essaye pas de comprendre comment que les politiques du gouvernement Harper qui veut aller intervenir en Irak poussent à des individus à essayer d'empêcher ça par des moyens qui sont désespérés, inefficaces, je veux dire, un peu pathétiques. Mais quand même, tu sais, c'est à n'y rien comprendre que les médias soient pas capables de prendre une position par rapport à ça et puis de dire, ben, écoutez, c'est comme... c'est simplement normal que l'armée canadienne qui va aller tuer des enfants là-bas soit simplement ne soit pas ciblée par des individus qui vont en être victimes dans le futur. Justement, je checkais le Devoir l'autre jour, c'était vraiment drôle parce que il y avait le premier article, c'était sur l'événement à Ottawa où il y a eu un mort blanc. Fait que, tu sais, parce que c'est un militaire, c'est un Canadien. Et puis, en bas, il y avait l'article sur Ebola qui disait qu'il y a eu 10 000 morts dans les différents pays d'Afrique, notamment le Liberia. Il y a eu 10 000 morts. Fait que, dans le fond, tu sais, en tout cas, on voit le racisme, là, tu sais, je veux dire, c'est que un mort blanc en vaut 10 000 personnes de couleur, tu sais. Puis c'est pas mal la logique, là.
Un dernier mot, Paul? Non?
Non, ça va aller.
Paul et Pierre-Paul de la Claque, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette deuxième entrée à l'abécédaire anticapitaliste.
Ben, de rien.
Merci. Merci à toi.
Merci. On poursuit en musique avec Webster et la pièce Le dernier mot sur les ondes de la marge. Vous écoutez ma émission jusqu'à 13h.